Première image, Benjamin. On la voit. Quand on regarde cette image, ou ces images plutôt, ce sont certainement les différences qui nous frappent le plus. Quoi de plus dissemblable en effet qu'une chenille et un papillon ? Il y a pourtant évidemment un point commun majeur entre les deux, et vous devinez évidemment lequel, non ? Sinon, il faut retourner rapidement à l'école pour suivre quelques cours de sciences naturelles. C'est en effet évidemment le même animal. Surprenant, mais pourtant c'est le cas, c'est le même animal. Quelle métamorphose pour passer de l'un à l'autre, n'est-ce pas ? Quelle métamorphose ! Plusieurs personnes dont parle le Nouveau Testament ont connu aussi des métamorphoses surprenantes et particulièrement visibles. Et quand on s'arrête un peu pour les considérer, on ne peut que trouver cela remarquable. Et parmi les exemples les plus frappants, il y a déjà eu Paul, qui a été mentionné pendant la présidence, persécuteur de l'Église, devenu lui-même chrétien, après que le Christ se soit révélé à lui, pour devenir missionnaire et enseignant zélé pour prêcher l'Évangile, se mettant au service de l'Église, quoi qu'il lui en coûte. Mais l'exemple qui me plaît davantage encore, c'est l'apôtre Pierre. Une métamorphose encore plus frappante, je trouve. Il était simple pêcheur, homme du peuple sans instruction, nous dit la Bible, impulsif et impétueux, reniant connaître Jésus par trois fois, et il est devenu un des principaux apôtres, père de l'Église, ferme et fidèle dans la foi, capable de formidables discours, servant de déclencheur à la conversion de plusieurs milliers de personnes à la fois, et auteur de plusieurs écrits du Nouveau Testament. Je ne sais pas si ça vous donne envie de vivre le même genre de choses, et c'est sûr qu'on ne se sent pas nécessairement appelé à vivre tout ce qu'ils ont vécu, et c'est normal, mais avoir le niveau de compréhension de Dieu et de communion étroite avec le Seigneur qu'ils connaissaient, moi, ça me donne envie. Et si on le vit aussi, alors je pense qu'il est plus facile de dire aussi « Seigneur, que ta volonté soit faite, comme eux l'ont fait, et vivre en paix cette volonté divine, même si elle inclut des épreuves. » Donc je vous invite à lire un passage donc dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, et on lira les 8 premiers versets. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, les 8 premiers versets. Tu sais faire la projection ? Non ? Je lis dans la version second, d'abord. Ouais, donc Salmo, tu vas sous recueil ou Bible. Tu sélectionnes le chapitre. Tu sais faire, toi ? J'espère que ça va être pour les gens pour suivre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est du costaud ce genre de texte, et Pierre avait désormais environ 35 ans de vie chrétienne derrière lui quand il l'écrit. Et il est assurément devenu un érudit sous l'action transformatrice et révélatrice du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas un privilège exclusif à l'apôtre, le Saint-Esprit peut et veut faire la même œuvre de transformation et de révélation pour nous et en nous. L'en croyons-nous capable ? Le voulons-nous ? Et il veut, entre autres choses, nous aider à comprendre ce genre de texte. Une des façons peut-être de mieux le comprendre, c'est aussi de lire le même passage dans d'autres traductions, qui, nous le savons, peuvent apporter de précieux éclairages sur le sens de certains versets, en explicitant le texte original par d'autres mots ou tournures de phrases. Et je vous invite donc à le relire dans la version Summer. Donc Benjamin, tu peux cliquer, il y a différentes versions, Summer, S-E-M, ça te donne l'autre version que je voudrais lire. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Tous d'un même prix. On ne sait pas trop à qui Pierre a écrit cet épître, mais c'est certainement aux chrétiens d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et elle a été écrite dans les années 60 de notre ère, à la fin des années 60, à l'époque où s'intensifiaient les persécutions contre les chrétiens sous le règne de l'empereur Néron. Mais plus que contre les persécutions extérieures, c'est contre les problèmes intérieurs aux églises, certainement les plus dangereux car les plus pernicieux, que cette lettre se concentre, et Pierre y dénonce en particulier les faux docteurs de la loi qui poussaient les chrétiens à douter de leur foi et même à s'éloigner du christianisme en se laissant aller à une vie facile dans le péché. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Pierre n'est pas un enseignant lambda ayant une autorité autoproclamée. Il est serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Apôtre voulant insister sur le fait qu'il a été choisi, choisi par Jésus lui-même, qu'il l'a connu personnellement et a vécu avec lui, qu'il a été témoin oculaire de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Il a donc pleine autorité, entière autorité pour enseigner la vérité, rappeler la saine doctrine, et voilà une des conséquences majeures de sa métamorphose en Christ. Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. La foi des uns est aussi précieuse que celle des autres, nous disent versets. Une foi d'un même prix. Mais ça ne veut pourtant pas dire que toutes les fois se valent, comme on peut l'entendre parfois, car certaines personnes ont foi en n'importe quoi, ou en n'importe qui. Et il faut bien sûr lire ce verset en entier. La foi, ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, dans la version Summer. Ce verset implique à contrario que la foi qui ne vient pas de Jésus-Christ, donc la foi qui n'est pas en Christ, une foi non chrétienne, n'a assurément pas la même prix, pas la même valeur. Ça peut sembler choquant et prétentieux de dire cela. On en a parlé hier un peu au groupe de maison. Mais la foi en autre chose ou en quelqu'un d'autre que Christ n'a tout simplement pas de prix, dans le mauvais sens du terme. Tout aussi méritante ou pieuse puisse-t-elle paraître aux yeux des hommes, elle n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Seule la foi en Christ est agréable et agréée par Dieu. Voilà ce que dit le texte en filigrane, car seul Christ a satisfait à la justice de Dieu par sa vie et son sacrifice à la croix. C'est ainsi que la parole nous le dit dans de nombreux passages, même si cette exclusivité peut être bien souvent dérangeante. Ceci étant, pas la peine d'aller chercher à se comparer à d'autres ou de se vanter d'un quelconque mérite ou de s'enorgueillir d'avoir mieux compris ou quoi que ce soit de ce style. Vis-à-vis des personnes ne connaissant pas encore Christ, comme vis-à-vis des frères et sœurs dans l'Église, en toute humilité, même Pierre, ce grand apôtre, en toute humilité, il dit aussi que Dieu est juste, dans le sens impartial, ainsi tous, quelques chrétiens qu'ils soient, chaque personne à qui Pierre s'adresse, a une foi aussi précieuse que celle des apôtres, une foi d'un même prix. Dieu ne fait preuve d'aucune partialité dans le domaine, et par extension, c'est notre cas également. Notre foi a le même prix que celle des apôtres. Avec l'humilité qui vous caractérise aussi, vous direz certainement que non, votre foi ne vaut pas celle d'un Pierre ou d'un Paul. Pierre le dit pourtant, et il faut cependant savoir que l'expression « de même prix » utilisée ici est en fait la traduction d'un seul mot en grec qui a été utilisé pour qualifier des étrangers auxquels on accordait la citoyenneté et qui étaient ainsi devenus égaux aux citoyens autochtones. D'un même prix, cela veut dire que ces lecteurs de l'Épître, comme tous les chrétiens à travers les siècles et à travers le monde, nous étions autrefois des étrangers spirituels, étrangers à l'Esprit de Dieu, païens, comme membres du peuple juif aussi d'ailleurs, mais désormais tout chrétien, nous avons désormais reçu le privilège de devenir citoyens du ciel, tout comme Pierre lui-même et les autres apôtres. C'est ce que veulent dire ces mots. Une foi d'un même prix. Intéressant, non? Moi, je trouve que ça vaut le coup de parcourir quelques commentaires parfois pour découvrir ce genre de choses. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, ajoute d'autres passages de Galates ou des Éphésiens. Réalisons-nous bien notre privilège. Réalisons-nous bien notre privilège. Nous sommes de ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que les apôtres par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ. Je le redis, en effet, ce n'est pas dû à la justice que nous pourrions nous-mêmes avoir, à un quelconque mérite humain, mais cela est dû à la justice de Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ. La justice justifiante de Dieu accomplie en et par Jésus-Christ. Vous vous souvenez sans doute que dans les évangiles, avant sa métamorphose, Pierre avait repris Jésus en refusant l'annonce de sa mort expiatoire et de sa résurrection. Il avait dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas », obligeant Jésus à une réponse sévère. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est un passage dans Matthieu 16. Pierre en a depuis bien sûr compris tout le sens, toute la nécessité et toute la portée. Et ça aussi, c'est encore une évidence de sa métamorphose, et ce verset de l'Épître de Pierre le prouve. Nos pensées étaient celles des hommes également, mais nous pouvons désormais aussi avoir les pensées de Dieu. En bonne partie en tout cas. Merci Seigneur pour ce privilège. La vraie foi se montre par la reconnaissance de la justice reçue comme un cadeau. Et il est évidemment impossible de même tenter de devenir juste devant Dieu par nos actes. C'est sans issue. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Romains 1, versets 16 et 17. De notre côté, une seule chose est nécessaire, et c'est d'ailleurs la seule chose que nous puissions faire. Accepter par la foi ce cadeau unique que Dieu nous propose dans l'acte rédempteur de Jésus. C'est exactement ce que veut dire notre texte. Il nous faut connaître Christ, avoir la connaissance de Dieu et de Jésus. Et cela nous donnera en abondance la grâce et la paix, nous dit le verset 2. Nous multipliera la grâce et la paix. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse. Connaissance acquise, mais aussi connaissance encore à acquérir. Cette connaissance n'est pas uniquement l'acquisition d'un savoir impersonnel, mais cette connaissance va plus loin. Elle est notre communion avec Dieu. Elle est notre communion avec Dieu. Et nous dit le verset 3, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Dieu nous a tout donné. C'est un acquis, nous dit ce texte. Et le verset 4 ajoute même, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Magnifique, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi l'apôtre Paul rajoute-t-il le verset 5? À cause de cela, ou pour cette raison, faites tous vos efforts pour... Faites tous vos efforts pour... Et il y a ensuite une longue liste de trucs, de différentes choses à s'efforcer d'accomplir ou d'acquérir.